Bonjour, ici François Nardou de Montcuq depuis les studios du Boulevard. Aujourd'hui, nous enregistrons aux environs et aux approches du solstice d'été, Saint-Jean-Baptiste, 24 juin, et l'idée m'est venue, en raison des traditions qui se rattachent à cette période de l'année, de vous parler des plantes médicinales de la Saint-Jean d'été. Je dis bien médicinales, je ne parle pas des plantes à usage magico-religieux, dont je dirai quelques mots quand même. Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé pendant les longues années où, dans le cadre de l'herboristerie familiale tenue par ma mère à Montcuq, j'ai fréquenté des gens qui se soignaient par les plantes, c'est en Quercy, parmi la population locale, les carcinols, un usage relativement limité de plantes médicinales quant au nombre et même quant aux propriétés qu'on leur attribue. Les gens du pays, semble-t-il, ne connaissent qu'un nombre réduit de plantes qu'ils tiennent pour curatives, capables de soulager leurs maux et leurs douleurs, de leur faire retrouver ou maintenir l'état de santé. Ce qui pose beaucoup de questions quant à la notion même de santé, d'équilibre des humeurs, car c'est la théorie des humeurs qui ressort souvent, de théorie des signes, car souvent les plantes ont des propriétés qui leur seront attribuées en fonction de leurs apparences, et des relations entre celles-ci et les différents organes du corps humain, et les maladies qui peuvent l'affecter, aussi bien l'homme que l'animal du reste. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que beaucoup de gens du pays ignorent bien des possibilités qu'offre la nature. En même temps, ils connaissent, dans le monde du vivant, aussi bien animal que minéral, aussi bien celui des eaux et des sources que celui des roches et des herbes, ils connaissent de nombreuses utilisations possibles, on pourrait appeler ça des vertus médicinales, au sens de puissance médicinale. Alors cela ouvre le champ à beaucoup de questions et de recherches sur les rapports entre l'homme quercinois, qui est un homme doc, et son milieu, ou plutôt ses milieux naturels. C'est au fond de l'écologie historique et géographique, de l'écologie au sens exact du terme, la science des rapports du vivant avec son milieu naturel qui n'est composé que de vivant. La fameuse phrase qui est, je crois, de Gérard de Nerval, « Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres » ou de Saint Paul, « Même la créature, c'est-à-dire les animaux, connaîtront la résurrection et l'immortalité éternelle ». L'immortalité étant toujours éternelle, enfin, pas au sens exact en théologie. Alors aujourd'hui, je vais commencer par essayer de parler de la symbolique, donc de l'imaginaire, mais qui repose sur une très vieille culture qui peut remonter jusqu'au plus lointain de la préhistoire, donc à des systèmes de pensée qui ne sont plus les nôtres, et qui repose sur une très vieille histoire du bassin aquitain, la symbolique en matière de plantes médicinales, donc en matière de thérapeutique par les plantes. Nous allons plonger dans un monde qui est celui de la science d'avant René Descartes, et non pas Descartes, qui fait très parisien. La science pré-cartésienne, en quelque sorte. Et j'ai choisi de parler des propriétés et des usages de plantes bien connues des gens du pays, entre autres la sauge, salbio en occitan, l'ail, la santorée, le millepertuis qu'on appelle trescalan, la verveine sauvage, herbo de la cruz, le sureau qui porte le nom de soy, c'est le sureau arborescent, le sureau sambuc, le noyer, nouguier, le frêne, fraise, le noisetier, aulanier, le chêne qui porte le nom de casse. Alors ce sont des plantes et d'autres herbacées, notamment la germandrée petit chêne, les orpins, les sédums, l'origan, etc. On n'en finirait plus. Il semblerait que l'on ignore, en Quercy je m'entends, les vertus médicinales de plantes pourtant caractéristiques des milieux arides et chauds d'Écosse, tels que le pistachier térébenthe, que j'ai surnommé la gloire du Quercy blanc, les germandrées petit chêne, très peu utilisées, les orpins, les sédums, je viens de vous en parler, et notamment un autre arbre caractéristique d'Écosse, qu'il ponctue de son feuillage vert sombre tout l'hiver, le Rhamnus alaterne, que l'on ne distingue guère des filires à feuilles étroites, qui sont des plantes à port buissonnant, ressemblant beaucoup au Rhamnus alaterne, et qui signent les caractéristiques hyper arides et hyper chaudes des Écosses du Quercy. La filire est une plante qui pousse spontanément aux confins sahariennes du Maghreb, c'est-à-dire dans le sud de l'Algérie et du Maroc, et qui est très présente sur les Écosses du Quercy. Ça vous donne un peu l'idée du milieu naturel des Écosses du Quercy, ainsi que les orpins et les sédums. Je pense également à la garance pèlerine, à l'érable de Montpellier, Ça nous amène donc, si vous voulez, à travers cette revue de la flore à connotation méditerranéenne du Quercy, mais aussi à la flore à connotation médio-atlantique, à nous pencher sur ce qu'est pour les Quercinois, d'après les 10 récits que j'ai pu recueillir à Montcuq et dans les environs, la santé par les plantes. Alors qu'est-ce que c'est que pour eux la santé par les plantes? Ça repose sur de très vieilles théories qui sont celles de l'équilibre des éléments et des humeurs. Les éléments, c'est le bois et la terre, le métal, l'eau, l'air, le feu. Étant donné que les humeurs sécrétées par les différents organes du corps ou qui irriguent le corps sont elles-mêmes sous la dominance des éléments et par là même des astres, des signes du zodiaque. Donc il y a, si vous voulez, l'univers est un tout complet, un vaste système infini où tous les éléments sont coordonnés entre eux, où tous les éléments se répondent. L'homme est le microcosme, qui est l'image du macrocosme. Le macrocosme, c'est l'univers en son ensemble, et l'homme en est un peu l'image en modèle réduit. D'où, par exemple, le fait que c'est le cas pour les gens nés sous le signe du taureau, entre le 21 avril et le 20 mai. Ce sont souvent des gens qui sont sous le signe de la planète Vénus, de l'élément cuivre, de la couleur verte, mais également, ils sont sensibles, ou au contraire, ils sont marqués par la prédominance des parties du corps qui correspondent au cou et aux épaules, ainsi qu'aux organes génitaux, du reste. Donc, ils vont souffrir de problèmes dans ce domaine-là. Et c'est en rompant l'équilibre des humeurs et des éléments qui gouvernent ces zones du corps qu'ils vont tomber en état de, disons, de maladie. Et il faut rétablir l'équilibre en compensant l'excès d'une humeur ou d'un élément par rapport d'autres éléments qui vont déclencher la sécrétion d'humeur, qui vont équilibrer l'excès d'autres humeurs opposées. Voilà, c'est un peu la théorie. Alors, quant à la théorie des signes, c'est la théorie de l'apparence. Par exemple, la noix, en raison des circonvolutions du cerneau de noix, sera assimilée au cerveau. On considérera que manger des noix est bon pour le cerveau. Consommer sous une forme ou une autre des plantes dont la tige est rouge est bon pour le sang. Et bon pour faire circuler l'énergie. C'est la théorie d'un défunt et fameux guérisseur de Saint-Pantaléon, en pays de Montcuq, qui me disait: Monsieur Nardou, la maladie intervient lorsque l'énergie, lorsque le sang stagne dans certaines zones du corps. Ça se traduit par une congestion, donc par des douleurs, et par la même par un état pathologique. Et c'est en faisant redémarrer la circulation de l'énergie, donc du sang, que l'on fait disparaître la maladie. Alors, parmi ces plantes-là, il y en a deux qui me viennent toujours à l'esprit parce que je les ai connues très utilisées par une personne de Saint-Donès, maintenant décédée, qui était maraîchère, tout le monde la reconnaîtra, et pour laquelle il y avait trois plantes qu'elle croyait recommander à son état de santé, alors que c'était des plantes qui ne faisaient qu'exacerber son tempérament naturel. C'était l'ail, la sauge et la centaurée. Alors, c'était une personne extrêmement dynamique, très énergique, d'une complexion très sèche, très maigre, débordante d'énergie et qui était portée à utiliser des plantes qui ne faisaient que renforcer cette énergie. Au fond, elle accusait le déséquilibre de son naturel dans un sens, comment dirais-je, d'éléments de feu et de sec. Alors, parmi ces plantes, il y avait évidemment l'ail et la sauge. Alors, l'ail, c'était le fort et le brûlant, ce qui correspond du reste à son nom en gaulois, Kramos, qui veut dire tout simplement celui qui brûle. C'est l'occitan crama. Alors que la sauge, la salbio, c'est celle qui sauve, qui est salbo. La sauge, elle sauve parce qu'elle est bonne pour le sang. Elle est bonne pour le sang, mais au sens de l'occitan balento. Elle travaille le sang. Alors c'est assez curieux quand on est frotté d'herboristerie, parce que la sauge est une plante qui accroît la viscosité sanguine, qui est donc déconseillée aux hypertendus et aux artériosclèreux. Et en Quercy, on la considère comme au contraire efficace en cas d'hypertension et d'artériosclérose. Mais pourquoi? Parce qu'on considère qu'il ne faut l'utiliser que 3 jours de suite. On considère que la sauge est efficace contre l'hypertension et l'artériosclérose si on l'utilise en cure de 3 jours à chaque changement de saison. Au-delà de 3 jours, elle devient au contraire hypertensive et pro-artériosclérose. Et cette personne de Saint-Donès, que je connaissais bien, était une adepte de l'utilisation de cures de sauge. Elle trouvait que c'était ce qui la rendait vraiment, qui lui rendait son plein état de santé. Alors moi, je la connais, la sauge, pour une utilisation qui m'est personnelle, mais que j'ai appris de la part de certains clients qui le tenaient eux-mêmes de leur grand-mère. Alors la sauge, voilà ce que je fais au mois de mai-juin chaque année quand elle est en fleur, et on peut se servir aussi bien de la sauge grise de Provence qui est commune en Quercy, aussi bien à l'état cultivé que même en certaines stations à l'état sauvage. On connaît des colonies de sauge sur les versants de Causse au-dessus de Couvignac, comme j'en connais à Bagat, comme j'en connais à Cahors, sur les propres terres de la Combe des Bouillères, sur le Mont Saint-Cyr. Alors la sauge, voilà ce qu'on fait. C'est une tradition qui nous vient du plus lointain des âges. On cueille en mai-juin les fleurs. Il ne faut mettre que les fleurs. On bourre un bocal de verre avec ces fleurs. On y verse dessus un alcool quelconque, qui vaut mieux du rhum de bonne qualité. On bouche bien, on le tient à l'ombre et au frais pendant toute la saison. Et ça donne une espèce de liqueur noire, à saveur très âpre, très forte, que l'on peut édulcorer au sirop de sucre, au sirop de canne. Moi, j'aime bien en verser dans une tasse chaude où j'ai déjà bu du café, où il reste un peu de café au fond. Et cette alcoolature de sauge est supposée, pour les vieux quercinois, rendre au corps la chaleur qui lui a été ôtée par un froid hivernal. Ce froid hivernal qui est dû au temps sombre et froid de l'hiver, du mois noir, qui est le mois de décembre, l'humesh negre, qui provoque la déperdition de la chaleur interne. Ça se traduit par une sensation de mal noir, une sensation fébrile. Et boire une alcoolature bien chaude, additionnée d'un peu de café et de sauge, c'est mon impression chaque fois que j'en bois, ça vous donne un coup de fouet, si vous voulez, ça vous donne un coup de tonus. C'est très âpre de goût. Édulcoré, c'est pas mauvais du tout. Remarquablement agréable à boire dans le cœur de l'hiver. Alors, je vous dis, on peut utiliser la sauge grise de Provence, mais on peut aussi utiliser la sauge des prés, qu'on appelle sauge sclarée, qui est commune dans nos vallées du bassin aquitain, au microclimat chaud et humide. À Montcuq, par exemple, dans un jardin voisin du mien, je connais, dans la partie laissée à l'état de prairie, une colonie de sauge sclarée. C'est très décoratif, du reste, ça fait des amples fleurs bleues sombres. Or, ce jardin est caractérisé par le fait qu'il y pousse spontanément de l'ail des ours, qui normalement ne pousse pas dans des sols calcaires comme les nôtres, puisqu'il exige des sols acides. Et l'ail des ours est spontané uniquement sur les terrains acides au-dessus de 800 mètres d'altitude. À Montcuq, nous sommes en dessous de 200 mètres, ce sont des sols argilo-calcaires. Et malgré tout, dans un coin de ce jardin, il pousse de l'ail des ours. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la pousse de l'ail des ours, la sauge sclarée, et le fait que j'oubliais de vous dire, c'est que ce sont ces jardins, le mien comme celui de certains de mes voisins, qui sont particulièrement propices aux sureaux sambuques, les sureaux noirs, dont n'est bon que ce qui est blanc ou noir, le vert étant toxique. Or, le sureau, c'est le grand antiflogistique, l'antifeu, l'antifièvre, si vous voulez, l'anti-infection de la flore européenne. Ça rejoindrait les propriétés attribuées à la sauge, qui est le grand antipesteux, le grand antipestilence, l'anti-infectieux de la flore méridionale occitane. Tout comme l'est, par exemple, l'ail. Alors, l'ail, il est brûlant. On lui attribue les vertus du feu. Il est celui qui détruit les pestilences de l'air et de l'eau. Pestilence qui infecte le corps, car pour les vieux quercinois, les vieux plus que guérisseurs du Quercy ancien dont j'ai connu quelques-uns, le mal entre dans le corps, il y pénètre et il faut donc l'en faire sortir. Or l'ail, qu'est-ce que c'est? C'est le blanc brûlant, c'est le feu blanc, et ce n'est pas sans intérêt lorsqu'on sait qu'on le mange fin avril, début mai, notamment pour le 1er mai. Or le 1er mai, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous reste de la vieille fête celtique lunaire, donc à date mobile, de fin avril, début mai, la fête de Beltaina, la fête des feux blancs de Bélénos. Bélénos, le dieu solaire gaulois des sources, de la médecine, des enchantements, de la magie. Le dieu guérisseur, si vous voulez. Et pour les quercinois, en quelque sorte, on peut dire que, par sa couleur, par ses propriétés, l'ail, la sauge, qui sont des opposés du surosambuc. Dans le surosambuc, c'est tout ce qui est blanc et tout ce qui est noir qui est bon. Or, vous le savez, la couleur blanche et la couleur noire sont deux couleurs opposées depuis le paléolithique. La couleur rouge étant la résultante produite par l'opposition des deux premières. Alors, en symbolique thérapeutique quercinoise, carcinole, faudrait-il dire, le surosambuc, le suronoir, est l'opposé de l'ail et de la sauge en même temps. Il est l'opposé des deux à la fois. Il est donc la résultante. Il fait sortir le feu hors du corps par ses propriétés connues et dites diurétiques et sudorifiques. Or, dans le sureau, ce sont ces fleurs blanches qui sont le grand remède des raumases, c'est-à-dire des états fébriles hivernaux, qui se traduisent par des maux de tête, des rhumes de cerveau, des gorges prises, des inflammations de la gorge, du nez, etc., de la sphère ORL. Or, ces raumases hivernaux, ils sont dus à quoi, pour la pensée quercinoise traditionnelle? Ils sont dus au froid et à l'humide. Le sureau, en quelque sorte, qui est diurétique et sudorifique, serait à la fois l'opposé du feu et du froid. Et de l'eau en même temps. Il serait opposé à la fois du feu et de l'eau et du froid hivernal. Ce serait en quelque sorte l'association des trois mots, des trois éléments, des trois puissances, des trois vertus, que sont celles du feu, de l'eau et du froid, qui seraient combattues par le sureau, qui est un arbre du blanc et du noir. On a, si vous voulez, tout un jeu de symbolique des couleurs et des éléments qui entrent en scène. Ça se vérifie particulièrement dans le cas d'un arbre classique sur nos causses et même dans nos combes. Vous en trouverez sur le pêche du Garrigue à Montcuq, dans la combe de Roubellette. C'est le Rhamnus alaternus, que l'on appelle ici Aladerne, qui est un arbre au feuillage vert sombre, persistant, je dirais de teinte noire, car nos ancêtres, il ne faut pas l'oublier, n'avaient pas du tout la même perception des couleurs que nous. Michel Pastoureau l'a bien montré. Le vert sombre, pour eux, c'est du noir. En gaulois, c'est particulièrement vrai, parce que le vert sombre, c'est dubnos glas. Glas, c'est vert, dubnos, c'est noir. Alors que glanos, ça veut dire clair. Alors ce vert sombre qui passe pour un noir, de cet arbre à feuilles persistantes, est intéressant. Pourquoi ? Parce que l'arbre lui-même n'est plus guère utilisé de nos jours, mais il le fut jadis à l'état de cendre, de bois blanc, feuillu, desséché, que l'on faisait passer par le feu, et les cendres que l'on recueillait étaient lessivées au vin blanc ou à l'eau pour chasser du corps les humeurs lourdes et visqueuses dont l'excès causait les états que l'on appelait apoplectiques, les états de pléthore, hypertension, artériosclérose, hydropysie, obésité, etc. etc. Alors là, on est avec la Rhamnus alaternus dans l'expression achevée de la médecine par les couleurs, les éléments, les humeurs et les apparences. Alors il y a une autre plante qui caractérisait pour cette maraîchère de Saint-Donès ses recherches en matière d'herbes de la Saint-Jean, qu'elle trouvait sur l'Écosse entre la Barguelonne et la Séoune, vers la Tuco de Macani et vers le Tucul, ou vers les guignottes, la Iguignos nautos, c'était la centaurée rouge, plutôt que la jaune. La jaune passant pour être plutôt, je dirais, faiblarde. Ça paraissait quelque chose de maladif, de faible. C'était une plante pour les jeunes filles évanescentes, si on peut dire. Alors que la rouge, au contraire, était tonifiante, parce qu'à cause de sa couleur de feu. Car c'était là, par son amertume et sa couleur rouge, qu'elle passait pour être une plante bonne à tout mot. C'est toutes les maladies possibles et imaginables. C'était la grande dépurative, recherchée pour son amertume, qui était le signe de ses vertus. Alors que semble-t-il, on ignore en Quercy les vertus fébrifuges de la centaurée, qui en firent au XVIIe siècle un véritable quinquina d'Europe, lorsqu'on a introduit le quinquina d'Amérique du Sud, où on s'en servait notamment en cas de fièvre récurrente, également en cas d'épidémie de peste. Or, en principe, les dépuratifs ont pour effet, dans la pensée traditionnelle, de chasser du corps toutes les humeurs en excès. Donc, si vous voulez, de donner une sensation à la fois de libération, de lessivage, si on peut dire. On a la sensation d'avoir le corps lessivé, le corps nettoyé, mais en même temps, on se sent à la fois frais, jeune, mais un peu, je dirais, un peu faiblard. Alors, elle est, si vous voulez, considérée comme tonique, comme la sauge. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que c'était absolument contre-indiqué au tempérament naturel de certains utilisateurs. Alors l'autre herbe de la Saint-Jean, qui est elle recommandée, dont je connais des utilisations qui m'ont été transmises par des guérisseurs et plus que guérisseurs, c'est connu des herboristes, mais chez les guérisseurs, il y a des pratiques encore plus approfondies. C'est la verveine sauvage, la verveine officinale, qu'on appelle herbo de la cruz, herbo del ferre, herbe de fer, parce qu'elle a des tiges très dures. Alors la verveine officinale, qui est une labiée comme le thym ou la menthe, et qui est en fleur à peu près fin juin, début juillet, qui est spontanée sur nos sols, aussi bien en vallée que sur l'Écosse, à ne pas confondre avec la verveine odorante des Indes, à odeur de citron, que vous buvez en tisane, qui a des propriétés tout à fait différentes. Alors la verveine officinale, cette labiée, qui n'est pas aromatique, alors que la plupart le sont, est une amère, tonique, fébrifuge, ça je peux vous le dire d'expérience. J'avais fait un mélange pour mon usage personnel de verveine officinale, de centaurée rouge et de quinquina, et je vous garantis que pour faire tomber la fièvre, ça avait été radical. C'était sur moi, hein. Je ne vous donnerai pas la recette exacte, c'est horrible à boire, c'est une amertume prononcée, mais c'est très tonique en même temps. Elle est fébrifuge, elle est aussi digestive, elle est fluidifiante du sang, on l'utilise contre les gastralgies, on l'utilise pour les problèmes menstruels. Alors ça, c'est des utilisations en tisane. Mais l'autre utilisation de la verveine sauvage, c'est un cataplasme, donc un usage externe, à appliquer sur le mâle, sur l'endroit où il y a un mâle qui est présent. On considère que le mâle est en quelque sorte enfoncé dans le corps, il est dans le corps, il gîte dans le corps, et on le fait sortir du corps par des applications de cataplasme, de verveine officinale, selon une préparation bien particulière qui m'avait été indiquée par une plus que guérisseuse de Montcuq dont je tiens beaucoup de choses, notamment quant au mythe de Saint-Jean-le-Froid et au rite de Saint-Jean-le-Froid. Et elle attribuait ces mêmes propriétés que sont celles de la verveine sauvage, c'est-à-dire exsudation de sérosité rougeâtre, qui sont vues comme des humeurs mauvaises sortant du corps. Et me disait-elle, c'est lorsque les sérosités sont devenues claires comme de l'eau de roche que la maladie est partie, que la maladie est sortie. On fait sortir le mal du corps, en quelque sorte. C'est la verveine officinale qui le fait sortir. Elle m'avait appris, ou j'avais lu quelque part, d'autres propriétés de la verveine officinale qui sont intéressantes. Pourquoi ? Parce que ça nous plonge alors dans les plus lointains du paléolithique et du mésolithique. On considère dans la mythologie des pays d'Oc, et ça rejoint les strates les plus anciennes de la mythologie grecque, de la mythologie méditerranéenne en général, que sortir dans la nature couronné de verveine officinale vous protège des agressions de quelque animal féroce que ce soit. On considérait que des chasseurs dont l'épouse était en menstruation ne pouvaient pas s'adonner à la chasse, sous peine d'être agressés par des bêtes sauvages, sous peine de voir leur sang couler, d'être agressés donc par le gibier qui les aurait agressés jusqu'à faire couler le sang du chasseur lui-même. Et on considérait qu'un chasseur qui se couronnait de verveine officinale ne risquait rien. La verveine officinale a donc des propriétés sur le sang. C'est ce que me dit cette fameuse plus que guérisseuse de Montcuq. La verveine officinale fait sortir du corps le mauvais sang qui est porteur de la maladie, qui est porteur des humeurs mauvaises. Elle me disait, regardez un peu la feuille de l'arôme tacheté, qu'on appelle aussi pan de serpe, pain de serpent. On dirait un poumon passé à la radio. Et à cause d'elle, c'est la théorie des signes, elle attribuait à des cataplasmes d'arôme tacheté la capacité de guérir, de soigner, de traiter les problèmes des poumons. En cas de bronchite ou de bronchite chronique, par exemple. J'ai connu, parmi la clientèle de la boutique de ma mère, quelqu'un qui était atteint d'une sévère bronchite, pneumonie, quelque chose comme ça, et qui avait été guéri par les applications de verveine officinale conseillées par cette plus que guérisseuse de Montcuq. Et sa petite-fille m'en a encore parlé il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit « Mon père a été guéri grâce à ça ». Alors, ce qui, pour les carcinoles, sert d'indice probant des vertus de ces plantes de la Saint-Jean, c'est leur commune amertume, aspect qu'elles partagent bizarrement avec la plupart des toxiques européennes, que leur toxicité soit due à la présence d'alcaloïdes ou à d'autres substances possibles. Alors, y aurait-il eu aux origines de la connaissance des plantes par les ancêtres des carcinoles modernes une expérimentation empirique en fonction des saveurs et des odeurs, comme des aspects, des signes? C'est ce que nous verrons dans une seconde partie, après un intermède musical. Cette verveine, dont je vous dis qu'elle exprime les pouvoirs qu'elle tient du milieu naturel où elle pousse, de nos combes et de nos vallées, illustre ce principe qui veut que l'on doive se soigner avec les plantes de son pays d'origine et du pays où l'on vit, Il vaut mieux vivre dans le pays où l'on est né, où l'on est venu au monde. Et cela permet en quelque sorte, par cela même, d'être en communion avec ce milieu naturel, celui de son jardin, de ses vallées, de ses causses. Et c'est là, si vous voulez, l'idée de communion entre l'homme et le cosmos. La verveine, par les usages magico-religieux dont je viens de vous parler, qui sont les siens, et par ses usages thérapeutiques connus des guérisseurs du Quercy Blanc, c'est une plante qui, par la communion avec le milieu naturel, entre dans les rituels de direction, de maîtrise des eaux de source et des animaux sauvages dont je viens de vous parler. Rappelez-vous Pagnol, la fameuse scène où sur la place centrale du village dans le roman Manon des sources, la vieille servante d'origine italienne fait brûler un bouquet de verveine sauvage sèche, officinale, dans le bassin de la source, en jetant la jettatura magna, la grande malédiction, à la suite de quoi la source se tarit, la fontaine cesse de couler. La verveine, au fond, régit les animaux sauvages, régit la nature, elle régit les eaux et les sources. Il est curieux de voir qu'en pays de Montcuq, elle n'entre pas en scène dans les mythes ni de Saint-Jean-le-Froid, ni de la source Saint-Julien de Brie ou d'Arouillac, ni d'autres sources que je connaisse. Celui qui sait les vertus de la verveine sauvage, comme on dit, celui qui sait les vertus de la fougère, et par cela même, ou révèle par cela même ce qu'il est. Il est un maître du gibier, il est un nouveau Saint-Blaise. Saint-Blaise étant, dans la mythologie chrétienne du Moyen-Âge, un des maîtres de la nature et des animaux sauvages. Il faut lire pour cela la légende dorée de Jacques de Voragine et aller dans l'église Saint-Privat de Montcuq au faubourg, où se trouve appendu à droite du chœur dans la nef, sous le bas-côté est, parce que bizarrement l'église est dirigée vers le nord, un tableau représentant la vie de Saint-Blaise. Alors je vous dis qu'on dit la même chose de qui sait les secrets de la fougère. La fougère en occitan c'est la falguiero, mais en gaulois c'était ratis, qui a donné ratier et moun ratier, le Castelnau des Munterratier, le château neuf du monde de la fougeraie. Or, ratis, c'est aussi proche du nom gaulois du char de la lune, rate. Le pêche de la rate à Lozerte, c'est le pêche du char de la lune, qui correspond, si vous voulez, au Castelnau du mont de la fougeraie, à Castelnau-Montratier. Il y a là, encadrant le pays de Quercy Blanc et le pays de Montcuq, deux hauteurs centrées. Alors, je pense peut-être sur Mont-Lauzun plutôt que sur autre chose, ou sur Saint-Jean-le-Froid, qui sont en quelque sorte encadrés par des monts de la fougère. La fougère, c'est l'herbe des magiciens. C'est l'herbe qui ne fleurit qu'une fois dans la nuit du solstice d'été. Et cueillir la fougère à ce moment-là, c'est s'assurer la maîtrise, la capacité par des rites particuliers de maîtriser la nature, les phénomènes naturels, les sécheresses, les pluies, les eaux, le soleil, la chaleur, peu importe. Au fond, la verveine sauvage, comme la fougère, sont des plantes de grands initiés qui ont pris des figures de saints et de martyrs chrétiens au Moyen-Âge. Autre plante qui entre dans ce cadre d'une vision magique de la nature et magico-religieuse, c'est le millepertuis, l'utrescalan. Le millepertuis connu pour mettre les démons en fuite, pour mettre en fuite les puissances mauvaises, les puissances hostiles. D'où son usage en bouquet, appendu au plafond des granges, des étables, au-dessus des portes des habitations rurales, et son usage en croix de protection, des masses, des capmasses, des champs, des terroirs. On les dresse après les rameaux, avec des buis et des lauriers bénis, que l'on entretresse de millepertuis, qu'il faut cueillir en mois de juin quand il est en fleur, et on les utilise en tant que croix de protection. Je me souviens de ce que me racontait notre maraîchère de Saint-Donès, qui connaissait très bien notre plus que guérisseuse, et une fois celle-ci vient la trouver, lui dit « Tu sais, Fernande, tu devrais mettre à l'entrée de ton jardin des croix, des rameaux, composés de buis et de lauriers bénis, avec du blé, du millepertuis et compagnie. Tu obtenais des récoltes remarquables et tes légumes n'auraient pas de maladie. » La personne en question, elle répond « Oh ça, je suis une bonne catholique, moi je ne veux pas entendre parler de tout ça. » Bon, très bien. Et elle me l'avait raconté par la suite. Alors, l'autre plante qui intervient dans la protection mythologique et surnaturelle des jardins, et j'ai vu la chose pratiquée à Carcassonne, où on me disait que c'était fait pour faire fuir les insectes, c'est le sureau. Le sureau en arbre, le sureau noir, le sambuc, planté en haies entrelacées. On entrelace les branches du sureau, ça forme des espèces de haies. Lorsque vous vous promenez dans la nature, si vous voyez un champ, un pré, dont l'entrée est marquée par un entrelacement de plantes en cercle, ça veut dire que l'entrée est interdite. On appelle ça des redortos, c'est-à-dire des retordus, si on va par là. Alors le sureau, lorsqu'il est utilisé comme ça en haies entrelacées, ou lorsqu'il pousse spontanément, passe pour être le meilleur signe protecteur des jardins contre les mauvais esprits, on dirait de nos jours les germes de maladies, mildiou, septoriose, anthracnose, oïdium et compagnie. On attribue les mêmes propriétés au prunelier, qui est très épineux, à l'aubépine, qui ne l'est pas moins. On considère que ces haies d'épineux, certes, elles protègent les jardins des bêtes sauvages, herbivores, comme les chevreuils et les sangliers, mais aussi elles les protégeraient des mauvaises influences, des maladies. Or, il faut savoir que l'aubépine est quand même le meilleur vecteur que ce soit d'une maladie qui affecte le blé, par exemple. Les germes de cette maladie séjournent tout l'hiver dans l'écorce de l'aubépine. C'est pour ça qu'elle a du reste été souvent arrachée, alors que traditionnellement, on s'en servait pour marquer les limites. Alors, l'autre plante que les carcinois, les carcinoles, initiés au secret de la nature, associent au sureau, c'est le noisetier. L'arbre de aifados et de aifaziliers, l'arbre des fées et des sorcières. Le noisetier que l'on appelle aulanier. Les noisettes sont las aulanos. Et alors, le noisetier passe pour assurer la fécondité du jardin où il est planté, alors que le sureau le protège des maladies. Le noisetier, en langue celtique, comme en gaulois, du reste, c'est col. Alors, par l'étymologie de son nom occitan, aulanier, arbre des aulanos, ça en fait l'arbre des nuques aulanae, des noix d'Avella. Avella est une ville de Campanie. Mais chez les Gaulois, le noisetier, et surtout par ses fruits, c'était l'arbre de la connaissance et de l'immortalité, de l'immortelle jeunesse. Il marquait de sa présence certaines sources, qui étaient des sources de guérison, des sources d'immortelle jeunesse, de jeunesse toujours revivissante. Je pense à mon cul qu'à la source de la Bella, qui est dans le chemin au fond de la combe de Rubelette, la combe del bosque de Rubelette, qui est marquée au bord de son chemin axial, son chemin de fond de combe, par la source de la Bella, qui à mon avis signifie, c'est le gaulois Birbelana, c'est-à-dire la source de Belenos. Alors l'autre arbre qui marque pour beaucoup le paysage du Quercy, évidemment, et c'est un peu erroné, c'est le chêne. Or le chêne en latin c'est quercus. En gaulois, c'est deruos, c'est aussi cassi, d'où le nom occitan du chêne, lucasse. D'où, par exemple, del casse, monsieur du chêne, le pont del casse aux portes d'Agen, c'est-à-dire le pont du chêne. Et le chêne, qui est associé, c'est l'étymologie erronée, au nom même du pays de Quercy, par son nom latin de quercus, alors que le nom de pays de Quercy, je vous l'ai dit 50 fois, ça vient du gaulois brogos ou tutos catu turhi, c'est-à-dire le pays, le peuple des Turhi, c'est-à-dire des sangliers de combat, Katu, et sanglier valant pour druide. Donc le Quercy, c'est le pays des druides de combat. Les Quercinois sont des druides combattants. Et cela se vérifie particulièrement en un pays, Montcuq, avec l'église Saint-Hilaire, Saint-Hilaire dans le bourg médiéval, Saint-Hilaire foris muris, comme on disait au Moyen-Âge, hors les murs. Saint-Hilaire qui a été bâti vers 1250 ou 1270 contre les remparts primitifs, mais à l'extérieur de ceux-ci, dans la partie qui ne sera protégée de remparts que, disons, après 1350. Et dans Saint-Hilaire, les sculptures, non pas du cœur proprement dit, mais de l'abside et du niveau supérieur de l'abside, les sculptures des corbeilles sommitales, des colonnettes engagées, des angles du pentagone de l'abside, ces sculptures, ces corbeilles, portent des brassées de chêne chargées de glands. Or, dans les rituels druidiques, il était prescrit d'un officier pour accomplir les rites magico-religieux ou religieux du monde gaulois que sous l'ombrage des chênes. Donc à Montcuq, si vous voulez, lorsque la messe est célébrée dans le cœur de Saint-Hilaire, et cela depuis la pose des sculptures en question, qui à mon avis sont plutôt de la fin du XVe siècle que du XIIIe. Elles doivent être contemporaines d'aménagements qui ont été faits dans Saint-Hilaire après 1450. Mais il se peut qu'elles soient des années 1300. Ces sculptures, ou toutes les sculptures de Saint-Hilaire, conserveraient le souvenir de rites anciens complètement oubliés de nos jours, et notamment le fait que finalement, le curé des servants de Saint-Hilaire, lorsqu'il célèbre la messe dans le chœur, le fait selon les règles des rites druidiques, c'est-à-dire sous l'ombrage des chênes. Au fond, le curé recteur de Saint-Hilaire médiéval et peut-être même le moderne est un héritier des druides. Il agit en druide dans un village qui a été, c'est les résultats des recherches de Claude Laurençon-Rosas dans sa thèse sur l'Auvergne aux alentours de l'an 1000, et l'Auvergne et ses marges, dont le Quercy, une antiquité qui n'en finit pas. Et je crois que c'est page 278, si je ne me trompe, note 2 en bas de page, où il nous dit que partout où il a pu remarquer en Aquitaine des sites du type de celui de Montcuq, je vous fais le résumé, ça signifie que les sites en question ont été longtemps des sites de culte du dieu gaulois Cernunnos, le maître de la nature sauvage, le dieu aux cornes de cerf, le maître des eaux, le maître du monde des morts et le maître de la nature sauvage, des animaux et des arbres. Le dieu auquel Semblaise a succédé, Semblaise qui avait une chapelle à l'entrée est de Montcuq. Et ce dieu gaulois Kernunos a eu pour successeur sur des sites de hauteur, tels que Montcuq, dans des églises occidentées, c'était le cas de la primitive église de Montcuq sur la place du Plat, il a eu pour successeur Saint-Cernin de Toulouse, et ça s'applique particulièrement à Montcuq. Donc nous sommes là dans un site, si vous voulez, où la prégnance du sacré antérieur au christianisme est particulièrement prégnante. Ce qui nous amène à parler un peu des rituels et cueillettes de la Saint-Jean, ainsi que de la thérapeutique par les éléments. Et je crois que ça fera l'objet d'une troisième partie après un intermède musical. Toujours avec François Nardou, je vais vous parler des rituels de cueillette des herbes de la Saint-Jean. La tradition veut qu'on les cueille vers midi, le soleil étant au zénith, le jour de la Saint-Jean. Les sorciers et sorcières, breix et breix sosanoc, et mascos, et non pas sourciers, ça c'est du français occitanisé, cueillent les plantes à minuit de la Saint-Jean, le soleil étant alors non pas au zénith, mais au nadir du monde. Et le nadir du monde, c'est la position du soleil lors de la résurgence des eaux, à la source de Saint-Jean-le-Froid, d'où l'interdit fulminé par les évêques de Cahors sur la fréquentation du site de Saint-Jean-le-Froid. Alors le midi zénital du solstice d'été est en pays aquitain et pyrénéen, à substrat linguistique et ethnique pré-indo-européen, ibère, le moment où l'on peut, d'un suprême élan, pourrait-on dire, échapper au cycle répétitif du temps, au samsara, si vous voulez, et libérer, gagner les hauteurs de lumière, les tuques et les tucos, que sont les cuques, comme le cuc de Montcuq. Tel, au boulevé par exemple, le cheval ailé, blanc de lumière, qui jaillit d'un roc dominant ses gosses et qui s'élance vers le ciel à la midi de la Saint-Jean d'été. Alors ce cheval blanc de lumière éblouissante me semble l'image, la figure possible du Mars Leucotiatos de l'impernal celtique de Luzèche, christianisé en Saint-Pardulf, Saint-Pardulf dont le nom veut dire le loup-cheval, l'ulf c'est le loup, pardus le cheval, loup-cheval éblouissant de lumière solaire et que l'on retrouve à Cambeirac dans l'église où sont conservées les reliques de Saint-Pardulf après avoir longtemps séjourné dans l'ancien temple gallo-romain de l'impernal de Luzèche et que l'on retrouve également au pêche de Belliqui à Saint-Donès. Or, chose à savoir, qui furent les sires du pêche de Belliqui et du château du pêche de Belliqui à Saint-Donès? Les Saint-Gilles, qui étaient seigneurs de Saint-Jean-le-Froid et qui était légendairement des cadets des comtes de Toulouse. Donc il y a là, si vous voulez, tout un enchevêtrement de mythes, de rites, de légendes et de traditions qui constituent la trame, le substrat non dit de l'histoire du Quercy Blanc. Alors je voudrais vous parler maintenant rapidement de la thérapeutique par les éléments, les feux de la Saint-Jean, les eaux de source et les rochers. Alors, les rochers, ce sont nos dolmens, guérisseurs, signalés par des peiros levados, des pierres dressées en forme d'échines de dragon, posées au sommet des murs en pierre sèche qui conduisent vers ces dolmens. Ce sont les dolmens secrets du Causse de Gramat et de Rocamadour. Le dolmen de Mages, par exemple, sous lequel faire la sieste vous guérit des maladies dont vous pouvez souffrir. C'est peut-être à mon cul que le roc de la Ipiados de la Saumo del Diable et au Touron. Mettre ses pieds dans les marques de la mule du diable pourrait peut-être vous guérir de vos maladies. Je vous disais ailleurs, c'est dormir sous le dolmen. Une autre thérapeutique par le rocher me vient tout d'un coup à l'esprit à propos du sable de renard. Le sable de renard sont des marnes calcaires qu'éjectent les renards quand ils creusent leur terrier sur des versants secs composés de roches calcaires et d'interstrates marneuses. Et ce sable de renard passe pour être particulièrement efficace contre les douleurs à condition de mettre l'articulation douloureuse en sandwich entre deux couches de sable de renard, de marne calcaire, mais prélevé sur les talus d'éjection que forment les renards quand ils creusent leur terrier. Et ce sable de renard, porté à très haute température, à la poêle, passe pour enlever toutes les douleurs articulaires. Je tiens ça d'un défunt chasseur, agriculteur, paysan authentique, très carcinole, très occitanophone, de la vallée de la Négrevieille, en face de chez moi, qui avait des terriers et du sable de renard sur sa propriété. On peut penser, donc, si vous voulez, que le rocher, d'où naît la source de Saint-Jean-le-Froid, est en quelque sorte l'auteur des vertus thérapeutiques des sources guérisseuses. À Saint-Jean-le-Froid, c'est le rocher, c'est la source qui prennent le mal. Elles en libèrent les pèlerins, notamment ceux voués à Saint-Jean. Exactement comme la verveine sauvage, l'arôme tacheté font sortir le mal du corps. À Saint-Jean-le-Froid, c'est le rocher et la source qui prennent le mal et qui en guérissent les pèlerins. Autre médication, c'est celle par les charbons des feux de la Saint-Jean-Baptiste, mais aussi de Noël, de Pâques, alors que les feux du 1er mai sont tombés dans l'oubli. C'est le bois réduit en charbon qui est un talisman. On peut dire que c'est le feu qui transmue le bois en talisman, qui fait du bois un élément sacral. Et c'est le feu qui révèle l'essence cachée dans le bois. Comme ailleurs, par exemple, la lumière solaire, le feu solaire, invisible, immatériel, jaillissent du rocher à Saint-Jean-le-Froid ou frappent le rocher d'où il sort l'eau salvatrice. Au Boulve, c'est le rocher qui se transmue en lumière sur le cos qui domine Ségos. On a là donc, si vous voulez, tout un ensemble de rites, de mythes qui caractérisent la culture populaire ethnologique du Quercy blanc ancien et du Quercy en général. Mais si je ne parle pas des autres contrées du Quercy, c'est que tout simplement je pense qu'il y a dans toutes ces autres contrées, ces autres pays, Cahors, Figeac, Gramat, Souillac et compagnie, des gens qui connaissent leur pays bien mieux que moi et qui pourraient en parler de façon beaucoup plus savante. Je ne vais pas me mêler de parler de choses auxquelles je ne connais rien. Je ne peux parler que de choses sur lesquelles j'ai des informations. Ou, disons, une longue culture acquise par des lectures et des recherches depuis des dizaines d'années. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, à une autre fois et portez-vous bien. Au revoir.